News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus une fois encore dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Le thème de la création d'entreprises ou de la création d'activités économiques est un thème récurrent dans cette série La Voix de l'Emploi. Développer une idée innovante, devenir son propre patron ou réagir face aux difficultés d'accès à l'emploi, la création d'entreprise, on l'a vu lors de précédentes émissions, titille toujours le goût du challenge de celles et ceux qui se lancent dans l'aventure. Une aventure qui nécessite d'être bien pensée et qui aujourd'hui bénéficie de l'accompagnement de nombreuses structures. Selon des chiffres publiés par le journal Le Figaro, plus de 800 000 activités économiques auraient vu le jour en 2019 en France. Et un entrepreneur sur trois serait âgé de moins de 30 ans. Donner à la jeunesse des clés pour entreprendre ou plus simplement pour leur apporter une culture de l'entrepreneuriat. Voilà bien les mots d'ordre de l'association 100 000 entrepreneurs qui vient aujourd'hui nous présenter son action auprès de la jeunesse. Alors, je présente tout de suite nos trois invités qui sont là pour parler justement de cette volonté de donner aux jeunes le goût d'entreprendre et pourquoi pas de créer leur propre entreprise. Alors nous avons, pour représenter l'association 100 000 entrepreneurs, Marilyn de Crémoux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes animatrice du réseau Auvergne-Rhône-Alpes pour cette association. À vos côtés, Pascale Niclot, enseignante au lycée Louise-Michel de Grenoble, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en gestion, administration, éco et droit.
Voilà, tout à fait.
Donc on comprend qu'il y a un lien avec le monde de l'entreprise quand
tout
même.
Tout à fait.
Et puis notre troisième invité, il s'agit de Jean-Luc Aprieux. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc, vous êtes un entrepreneur multicarte, une longue expérience de nombreuses entreprises, activités économiques créées. Et puis, que ce soit vous, Nicole, ou vous, Jean-Luc, vous nous apporterez un témoignage sur l'expérience que vous vivez ou que vous avez vécue auprès de l'association 100 000 entrepreneurs cette action auprès des jeunes. Voilà. Et puis, Jean-Luc, vous aurez l'occasion de revenir un peu sur votre parcours, nous expliquer qui vous êtes.
Bien sûr.
Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une présentation de cette association 100 000 entrepreneurs. Une association donc qui rayonne sur tout le territoire national.
Tout le territoire national, donc France métropolitaine, les Outre-mer, et puis également depuis peu également à l'international dans les lycées français dans l'international. Donc assez large, une association qui a vraiment pour but de donner envie aux jeunes d'entreprendre leur vie, entreprendre au sens large, donc acteurs de leur formation, porteurs de projets au sein d'associations et d'entreprises, voire créateurs d'entreprises demain.
Alors, quelques mots pour nous expliquer un peu plus en quoi consiste cette association qui existe depuis 2007, mes notes sont bonnes.
Tout à fait. On est depuis 2007. En fait, on a fondé avec Philippe Ayat l'association 100 000 entrepreneurs en 2007. Et depuis la création, on a sensibilisé plus de 600 000 jeunes à l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un beau mouvement, hein, je dirais, qui a pris naissance en Rhône-Alpes à l'époque en 2008, très ancré localement. Et aujourd'hui, on est vraiment sur tous les territoires, le territoire national et puis, comme je vous disais, même en développement sur l'international. Donc l'idée, c'est de donner envie aux jeunes d'entreprendre à travers des témoignages d'entrepreneurs et d'intrapreneurs, des témoignages de parcours de vie.
Qu'est-ce que vous appelez intrapreneur ?
Alors, intrapreneur, je vais schématiser, c'est des salariés entreprenants. C'est-à-dire que ceux qui viennent témoigner, ce ne sont pas que des créateurs d'entreprises, c'est également des porteurs de projets associatifs ou au sein même d'une autre entreprise, donc en tant que salariés. Ce sont des gens qui ont, entre guillemets, sont entrepreneurs dans l'âme, portent des initiatives et ont envie de les transmettre auprès des jeunes. C'est vraiment les deux facteurs clés pour venir participer à ce mouvement, à cette association. Et donc, l'idée de ces témoignages-là, c'est de donner envie aux jeunes, par l'exemple, par les rôles modèles, à travers son propre parcours de vie, leur montrer qu'on a pu être en échec scolaire, mais aujourd'hui chef d'entreprise, qu'on a pu changer 3 fois de métier, désacraliser un petit peu toute la pression qu'ils peuvent avoir, à la fois sur l'orientation, sur l'échec, et faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout dans les mains, et que l'école comme l'entreprise sont des outils pour créer leur propre projet professionnel.
Vous parlez donc de ce credo, hein, qui est de sensibiliser, donner le goût à la jeunesse, d'entreprendre à travers des rencontres avec des entrepreneurs. Il y a aussi des axes de travail, on va dire presque sous-jacents, comme par exemple promouvoir l'égalité des chances, promouvoir aussi l'entrepreneuriat au féminin, ou encore promouvoir les métiers de demain, hein, c'est ce que vous annoncez, vous montrez aussi sur votre site web. Alors quelques mots par rapport à ces axes.
Alors c'est en effet, ce sont les 3 axes prioritaires de nos actions, c'est-à-dire qu'on va essayer déjà de favoriser l'égalité des chances en allant voir en priorité les jeunes des quartiers, les jeunes décrocheurs, ou même les jeunes de zones rurales isolées qui ont en fait les mêmes problématiques, le même éloignement du monde de l'entreprise. Donc ça représente près de 40% de notre public aujourd'hui, et donc c'est en évolution, et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on souhaite participer et qu'on a monté notamment avec des partenaires comme BPI France et puis Impact Partenaire, les mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers, donc qui sont lancés chaque année en novembre-décembre, et en fait par cette communication montre qu'on peut intervenir, que 100 000 entrepreneurs peuvent intervenir et souhaite intervenir en priorité vers ce public-là tout au long de l'année. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est sur l'entrepreneuriat au féminin, montrer des rôles modèles féminins, la réussite au féminin auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Et l'idée derrière, c'est bien sûr de promouvoir la mixité dans les organisations. Donc ça a été initié dès 2013 par notre association, et maintenant, on a des semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Donc ça a lieu normalement au mois de mars, mais on en fait toute l'année, hein, et de plus en plus d'ailleurs. Ce sont des femmes qui interviennent pour montrer pour témoigner de leur parcours, mais ça peut être également des binômes hommes-femmes qui vont voir les jeunes. Et le troisième axe, c'est essayer de préparer les jeunes au monde de demain. Donc pour ce faire, on a notamment, par exemple, on fait des interventions tout ou en partie en anglais. On a aussi l'occasion de les sortir des murs de l'école pour aller voir des lieux d'innovation, faire des témoignages dans des structures, dans des entreprises qui ont des formes diverses pour leur ouvrir aussi le champ des possibles. Et puis cette année, on a mis en place également des visios thématiques, où là, on n'est pas sur des visios pour des témoignages de parcours de vie, mais répondre à des problématiques. Par exemple, l'intelligence artificielle, dans mon quotidien, qu'est-ce que c'est? Quels sont les métiers demain? Une entreprise à impact, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou au contraire, des grands groupes qui discutent de RSE. Et puis, c'est également des visios qui sont sur des thèmes qui sont vraiment problématiques, notamment cette année, autour des stages, de l'alternance, comment aider les jeunes à trouver ces stages-là. Et donc, on a des experts au niveau national qui viennent répondre à ces questions-là.
Alors, la question de l'égalité des chances, Jean-Luc, à Prieux, vous en parliez avant qu'on commence l'émission, vous nous expliquiez que vous n'êtes pas surdiplômé. Au contraire, vous vous présentiez comme un bac moins 5. Donc, ce qui est important à vos yeux, c'est aussi de montrer à des jeunes qui peuvent penser à raison ou à tort qu'ils n'auront pas la possibilité de faire des grandes choses, de monter, pourquoi pas, leur boîte. Vous êtes là pour leur démontrer l'inverse?
Effectivement, c'est quand même un des axes de mon intervention, de leur montrer qu'en fait, les études, ça sert. Mais ça sert pas à ce qu'on regarde quand on est enfant. C'est-à-dire qu'une des premières choses, quand on apprend à l'école, ça s'appelle la culture générale. Et la culture générale, c'est très important pour la suite. Et les enfants, et nous-mêmes, quand on est enfant à l'école, on comprend pas à quoi ça sert d'apprendre la géographie, l'histoire et certaines choses, notamment en physique et en maths. Et mon intervention que je fais, j'en suis d'ailleurs à la 40 et quelques interventions, elle est axée là-dessus, en faisant comprendre aux jeunes que il faut apprendre, même si on ne sait pas à quoi ça sert, il faut apprendre, parce que quand on est gamin, entre même avant 14 ou 18 ans ou 20 ans, on assimile, on a une éponge, et on apprend facilement. Moi, je me suis remis à l'anglais à 56 ans. Essayer de savoir ce que ça peut donner, de se remettre à l'anglais à 56 ans.
Et vous l'avez fait pour le plaisir ou pour le boulot?
En fait, je suis aussi pilote d'un avion, et quand je veux me rendre à l'étranger, faut parler anglais.
Et oui.
Et je peux vous dire que c'est très dur. Alors que quand on est gamin, apprendre l'anglais, c'est hyper facile. Donc ça, c'est une des choses que je leur dis tout le temps. Apprenez, 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 apprenez. Et c'est très important.
Alors pour revenir justement sur cette expérience, une quarantaine d'interventions, comment ça a commencé? Vous avez entendu parler de ce dispositif?
Moi, j'ai été contacté par quelqu'un qui gérait l'antenne de Lyon. Je me rappelle même plus de son nom. Et qui était au tout début de l'association, il y a maintenant, depuis, je crois que c'était en 2008. Et puis les premières interventions, on y allait un petit peu la fleur au fusil, parce qu'on ne savait pas trop, il n'y avait pas trop de manuels et ainsi de suite. Mais en fait, ça vient tout seul, parce qu'en fait, c'est naturel. Il suffit de leur expliquer plein de choses, mais d'une manière naturelle, sans montrer qu'on est des cadors, parce qu'on n'est pas des cadors, on est des gens comme eux. Simplement, on a choisi une autre voie. Et cette voie, c'est le choix de faire ce que j'ai envie de ma vie.
Est-ce que les réactions des jeunes qui sont en face de vous sont très différentes suivant les sections, suivant les âges, suivant les sexes, les garçons, les filles?
En fait, il y a des réactions qui sont différentes, mais toutes reviennent. Bon, les garçons, combien vous gagnez? Vous avez quoi comme voiture?
C'est les garçons qui posent ces questions.
Ça, c'est les questions qui sont posées par les garçons. Les filles sont plus dans la prospective. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat au féminin, je trouve ça sympathique et rigolo. Parce qu'en fait, je vais déplaire aux garçons, mais les filles sont bien mieux armées pour être chef d'entreprise que les garçons. Notamment par l'écoute, l'empathie qu'elles peuvent donner aux équipes. Et ça, c'est un point très important dans une entreprise, quand on monte une entreprise, quand on veut fédérer des salariés.
On y reviendra sur la question justement de l'entrepreneuriat au féminin dans la deuxième partie d'émission. Pascal, Nico,
oui.
Comment ça s'est fait ce contact avec 100 000 entrepreneurs? Ça remonte Louise Michel.
Alors ça remonte beaucoup plus loin que le lycée Louise Michel, parce que je suis arrivée sur le lycée Louise Michel il y a 4 ans. Et avant, j'étais au lycée Pravaz à Pont-de-Beauvoisin. Et donc, j'avais déjà de nombreux contacts avec 100 000 entrepreneurs du côté de Lyon, où j'ai fait, où il y a eu des interventions de personnes dans mes classes. Je suis allée à des assemblées et des rencontres interprofessionnelles. Donc, c'était vraiment très sympathique. Et donc, ça fait déjà très longtemps que je connais 100 000 entrepreneurs. Pour vous dire comment je les ai connus, j'ai du mal à me souvenir, mais je crois que j'ai dû voir une annonce ou une publicité. Alors est-ce que c'était sur un site de l'éducation nationale, est-ce que c'était sur internet, je sais plus, mais de moi-même je me suis dit, je venais de l'entreprise puisque je suis enseignante que depuis 2005, et donc c'est vrai que j'étais assez sensible au rapprochement école-entreprise, et donc par rapport à cette idée qu'on peut vraiment faire un rapprochement entre les deux, et qu'il y a souvent on le voit bien au niveau du marché de l'emploi, des postes qui ne sont pas pourvus, des élèves qui sont des fois qui n'ont pas la formation adéquate. Je me suis dit on peut déjà commencer par la petite porte et donc avoir des contacts entreprise école. Donc j'ai commencé il y a déjà longtemps. Moi j'ai trouvé que 100 000 entrepreneurs répondaient tout à fait aux besoins de mes classes, puisque moi j'enseigne à des sections professionnelles. Et donc, ils sont déjà amenés à rencontrer le milieu du travail dans leur stage, dans leur période de formation d'entreprise. Et donc, il y a vraiment trois thèmes qui répondent exactement à nos besoins en tant que professeurs et élèves. Le premier thème, c'est d'avoir déjà un message qui est souvent fourni par les professionnels. Donc, les élèves l'écoutent et l'entendent de façon différente que lorsque ça vient d'un enseignant. Ensuite, il y a effectivement, j'enseigne dans des sections tertiaires. La gestion et l'administration, l'économie droit, finalement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles dans les sections. Et donc, moi, l'entrepreneuriat féminin, moi qui suis femme en plus, qui ai connu un peu la difficulté en entreprise qu'on peut avoir en tant que femme, je me disais que c'était vraiment une bonne approche pour montrer à nos élèves filles nombreuses qu'on peut très bien réussir en tant que femme dans le monde du travail et notamment en tant qu'entrepreneuse. Donc, deuxième point qui est important pour moi. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on peut avoir un parcours complètement atypique et on peut très bien réussir. Donc ce troisième point, par
par les intervenants qui viennent expliquer leur parcours. J'ai souvent eu des personnes avec des parcours atypiques, et c'était montré à mes élèves qui sont quand même dans des sections où le devenir ou l'avenir est difficile à programmer, à envisager. C'était de leur montrer qu'il y a des possibilités, même quand on passe par la petite porte, et qu'on peut réussir très bien en ayant un parcours complètement différent d'un parcours universitaire classique. Voilà. Donc, voilà.
Marilyn, donc le réseau d'entrepreneurs avec ou sans eux, avec lesquels vous travaillez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que c'est équilibré ou il y a davantage d'hommes, davantage de femmes ?
Aujourd'hui, on est vraiment à l'équilibre. On a, du fait de ces semaines-là, ce qui n'était pas le cas au départ, hein, où on avait beaucoup d'hommes, aujourd'hui, dans les intervenants, on a presque plus de femmes que d'hommes. Donc, on a vraiment atteint la parité pour montrer cette diversité-là à notre public, hein, de 13 à 25 ans. Donc ça, c'est important pour nous, comme le disait Pascal, d'enlever les freins. Sur ce thème-là, il y a eu également depuis cette année une campagne qui a été lancée qui s'appelle Entrepreneur Même Pas Peur, qui est un outil, une plateforme digitale à destination des jeunes en direct pour les défier un petit peu sur, j'allais dire, les soft skills d'un entrepreneur, que ce soit être informé, que ce soit respecter l'environnement, que ce soit savoir écrire, savoir parler, être en contact. Et donc ça, c'est pareil, c'est l'idée de les mettre en action et de lever des freins que pourraient avoir des jeunes, et notamment des jeunes filles, sur l'entrepreneuriat et être acteur de sa vie, tout simplement, quoi.
Au jour d'aujourd'hui, si on parle juste de l'Isère, oui, pas de toute la région, ça représente combien d'établissements qui vous ont sollicité ou que... Parce qu'en général, il faut que l'établissement vous sollicite, c'est pas vous qui faites un démarchage.
Tout à fait, c'est la demande, elle vient des enseignants ou des chefs d'établissement, c'est assez variable. Et en effet, comme le disait Pascal, on a une entrée qui est déjà souvent via le rectorat, hein, on est en convention avec le ministère de l'Éducation nationale et les académies dans lesquelles on travaille. Et donc là, il y a une communication qui part du rectorat. Des fois, la communication, elle est montée aussi à travers les ENT des lycées, parce qu'on est en partenariat également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a une communication qui vient de là. Et souvent, il y a une communication de bouche à oreille, hein, tout simplement. Un professeur qui fait appel à nous, peut en parler à d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est souvent par ce biais-là qu'on intervient en classe. Sur l'Isère, à proprement parler, on est à peu près à 200 témoignages dans l'année. Alors, j'ai pas les chiffres de cette année. Alors, ce sont des chiffres, je dirais, historiques, hein, presque. Cette année, on a touché à peu près 80 000 jeunes en France, 14 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je dirais, sur ces 14 000, on a à peu près 4-5 000 jeunes d'Isère.
Donc 200 environ témoignages sur une année.
Sur une année.
Ça veut dire 200 établissements différents ou il peut y avoir plusieurs interventions dans
non,
un établissement?
Ça peut être notamment, je prends le cas du lycée Louise Michel au mois de mars. On a monté pour toutes les classes une rencontre avec une femme entrepreneur ou intrapreneur. Donc il y avait là pour le coup, dans la même semaine, il y avait 18 classes sensibilisées durant cette semaine. Donc voilà, c'est assez variable, hein, les témoignages. Des fois, on en fait dans le même établissement, des fois, on en fait dans plein d'établissements différents. On a notamment mis en place des conventions également avec les établissements, où là, on s'engage, nous, à trouver pour chacune de leurs classes, de leur établissement, un entrepreneur. Donc, c'est quelque chose qu'on planifie en avance en disant, voilà, cette année, toutes nos classes auront vu un professionnel. Donc ça, c'est aussi une occasion de toucher beaucoup, enfin en l'occurrence tous les jeunes d'un même établissement. Mais des fois, on vient intervenir juste pour une classe.
Pascal, comment se prépare une intervention du point de vue de l'établissement et de la classe? Est-ce qu'il y a un gros travail de préparation en amont?
Alors, ça dépend l'objectif de l'intervention. Il y a des interventions avec un objectif plutôt général. C'est vrai que moi, j'ai tendance à laisser la liberté de l'intervenant et de ce que les élèves ont envie de poser comme question. Je ne suis pas sur un thème ou avec un objectif précis. Donc quand c'est comme ça, généralement, je fais plutôt d'abord une recherche sur l'entreprise. Je demande à mes élèves de rechercher quel est l'intervenant qui va venir, quelle est son entreprise, quel est son domaine, son champ d'activité. Et puis on commence à préparer des questions en amont. Par contre, s'il devait y avoir un thème, je présume, moi je ne l'ai jamais fait, mais je présume qu'il y a un travail beaucoup plus précis sur un travail d'investigation, ce qui n'est pas le cas de mes élèves, parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de laisser vraiment l'interaction se faire naturellement avec un intervenant qui va raconter sa vie professionnelle, son parcours professionnel, et les élèves qui, eux, vont poser des questions. Alors, bien sûr, j'ai un contrôle sur le type de questions qui va être posée, puisque je sais bien que les intervenants se présentent leur entreprise. Donc, toutes ces questions d'ordre général, on ne les repose pas. Elles vont poser souvent des questions plus précises. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des questions d'ordre général. Et du coup, il y a vraiment une interaction qui se crée assez sympathique, parce que souvent, les intervenants demandent un feedback immédiat en fin de séance. Et elles sont assez surprises de voir que le message qu'elles essayent de passer, les femmes entrepreneuriales, hein, ou même, parce que j'ai eu déjà des binômes, le message qu'ils essayent de passer souvent est très bien retenu par les élèves. On peut vraiment faire un feedback rapide à base de post-it, affichage au tableau, et on s'aperçoit que finalement les messages passent très bien.
Alors Pascal, Jean-Luc, ma question s'adresse à vous deux. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont surpris quand vous leur expliquez que eux aussi, ils peuvent tenter l'aventure, entreprendre ou monter une activité, parce que c'est pas forcément des entreprises. Mm-hmm. On est aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les entreprises individuelles, les micro-entrepreneurs, donc des activités qu'on gère tout seul. Est-ce qu'ils sont très surpris de cela, ou finalement ils en entendent parler, ils commencent à avoir cette fameuse culture de l'entrepreneuriat, ils sont déjà sensibilisés?
Je pense que les plus jeunes ne sont pas vraiment sensibilisés. Par contre, suite à des interventions, dans un groupe d'une quinzaine de personnes, il y a déjà des fois 3-4 personnes qui disent « Ah, mais moi aussi, je vais devenir entrepreneuse, moi aussi, je veux faire, je vais essayer, j'ai bien envie. » Voilà, donc ça crée quand même des envies, des idées de possibilités. De possibilités, voilà. Alors qu'au départ, quand il n'y a pas d'intervention, les élèves sont dans leur routine quotidienne du devoir, de l'école. Enfin, les jeunes, tant qu'ils n'ont pas passé, je pense, le bac, ils sont encore très scolaires. Donc, il n'y a pas vraiment de vision sur l'avenir et sur ce qu'ils peuvent faire. À part Parcoursup, voilà.
Jean-Luc, donc on le rappelle, vous le disiez tout à l'heure, vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir rencontrer une quarantaine de fois des jeunes. Comment vous les sentez, ces jeunes? Et c'était toujours un peu les mêmes tranches d'âge, ou c'était assez varié?
Moi, je préfère faire des interventions à partir de la troisième seconde terminale.
Donc plutôt des grands,
parce que ceux qui sont avant, c'est quand même très difficile, notamment de les tenir en haleine pendant 2 heures, parce qu'il y en a certains qui dorment, tout simplement. Donc, je trouve que il y a plus d'interactions avec des classes un petit peu plus élaborées. Sur la préparation de la séance, moi, je suis à l'opposé de ce que j'ai entendu maintenant. C'est-à-dire que je veux que ça soit une surprise pour eux. Donc, l'enseignant ou l'enseignante, je leur demande de ne pas donner mon nom, parce qu'en fait, sur Internet, on retrouve tout, de façon à dérouler quelque part le parcours et leur montrer qu'effectivement, on peut démarrer par un CAP à partir de la quatrième, et finir chef d'entreprise d'une grosse boîte. Et pour moi, c'est aussi leur montrer qu'on peut y arriver, parce que si on leur donne toutes les clés en amont avec l'entreprise, qui est le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait, et ainsi de suite, le jour où on fait l'intervention, il y a moins cette surprise et cette tenue en haleine des élèves. Donc après, c'est aussi un accord entre l'entrepreneur et l'enseignante, où on met ça au point au préalable avec un appel téléphonique où on briefe un petit peu comment va se dérouler la séance.
Oui, parce que j'imagine que voilà, chaque entrepreneur qui vient témoigner, il n'y a pas un squelette, un format, chacun construit un peu ses interventions. Vous voulez réagir, Marilyn?
Oui, tout à fait. En fait, oui et non. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs qui vont venir témoigner, ils ont reçu ce qu'on appelle un brief. Qui leur permet d'avoir connaissance des objectifs pédagogiques et donc en gros des messages clés, que ce soit sur qu'est-ce que ça veut dire entreprendre, encore une fois au sens large, travailler ça avec les jeunes, leur faire découvrir le monde professionnel, alors à la fois l'écosystème, les fonctions, à la fois également les codes de l'entreprise. Et puis le dernier objectif, c'est faire en sorte que les jeunes comprennent, à travers encore une fois l'exemple du professionnel et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, l'intérêt des matières qu'est-ce que ces matières-là ont apporté et comment elles sont en lien avec le monde professionnel. Donc ça, que ce soit sur ça, que ce soit sur des conseils pour plus d'interactivité, un certain nombre d'éléments, les entrepreneurs ne peuvent se positionner s'ils n'ont pas suivi ce brief-là, qui était à l'époque de Jean-Luc en présentiel. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec une visio derrière pour poser les questions et rassurer et enlever tous les freins que pourraient avoir les entrepreneurs. Donc, ils ont tous ce cadre-là. Ils ont un guide également à leur disposition. De même que les enseignants ont un guide pour préparer l'intervention. Mais le facteur clé, la réussite, Jean-Luc l'a très bien dit, c'est qu'à un moment donné, quand les gens se positionnent, ils reçoivent un mail de mise en relation, c'est-à-dire que l'enseignant reçoit les coordonnées de l'entrepreneur et l'entrepreneur reçoit les coordonnées de l'enseignant pour pouvoir échanger en amont et définir ensemble, moi mes attentes par rapport à la classe, voilà comment elle est, etc., etc. Et inversement, moi je peux vous parler de ça, ça vous intéresse, oui, non, ou comme disait Jean-Luc, je n'ai pas envie que vous prépariez ça avec vos élèves, par contre vous pouvez préparer ça, ça, ça. Donc c'est vraiment l'intérêt de cet échange-là, il est clé pour que chacun puisse s'adapter au mieux à son public et faire en sorte que le jour J, l'interaction, elle soit là, que les échanges soient riches et qu'il y en ait un impact auprès des jeunes.
Sur ce sujet, par exemple, les premières choses que je fais sur mes interventions, en accord avec l'enseignant, c'est de venir avec un chewing-gum dans la bouche. Donc, vous arrivez à la séance avec un chewing-gum et je mâche le chewing-gum devant les élèves avant de démarrer la séance. La première question, c'est qui a remarqué que je mâchais un chewing-gum ? Donc, la totalité des élèves lève la main. Et donc, j'interroge les élèves. Toi, ça t'a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser que vous étiez désinvolte. Ok. Toi, ça t'a fait penser à quoi ? Moi, ça m'a fait penser que vous n'étiez pas respectueux. Et donc, tous les élèves s'expriment de cette manière. Et là, je leur dis, vous voyez, vous allez noter la phrase, on a une seule et unique occasion de faire une bonne première impression. C'est exactement le cas quand vous allez vous présenter dans une entreprise pour un entretien d'embauche ou un entretien de stage et ainsi de suite. C'est-à-dire que votre présentation, y compris la tenue vestimentaire, est importante quand vous allez rentrer dans le monde du travail. Et ça fait partie des messages que je lance tout au long de la séance pour que les élèves comprennent qu'effectivement, les filles qui viennent avec un décolleté plongeant jusqu'au nombril, c'est joli peut-être pour les garçons, mais quelque part, ça catégorise cette personne vis-à-vis de son chef d'entreprise. Par exemple, pour les CV, là, quelquefois, les profs m'engueulent, mais c'est pas grave, c'est assez amical. Je leur pose la question, à quoi sert un CV ? Alors, les élèves expliquent à quoi sert un CV. Moi, je leur dis, un CV, ça sert à rien. Alors là, il y a les profs qui font les gros yeux. On laisse passer un petit peu de temps. Je répète trois fois, les CV, ça ne sert à rien. Donc là, les élèves regardent le prof, me regardent, ils comprennent plus. Et là, je leur dis, effectivement, le CV, ça ne sert à rien, sauf si vous allez en entreprise pour le remettre en main propre au chef d'entreprise. Vous allez faire des CV à l'avenir, vous allez en faire 10 000, il y en a 9 999 qui vont finir à la poubelle. Si vous portez votre CV en main au chef d'entreprise, vous aurez déjà un contact avec le monde de l'entreprise et la personne qui va vous recevoir va sentir qui vous êtes et là, un CV aura toute sa pleine fonction. Et c'est des messages, ce ne sont que des messages et je pense qu'ils les entendent. Ce type de message.
Une intervention, ça dure combien de temps ?
2 heures.
Voilà, on mobilise 2 heures nos intervenants. Après, des fois, ça peut être 1h30 ou dans des cas. Alors, comme je disais, les jeunes qu'on touche, c'est des jeunes de la 4e à l'enseignement supérieur quand ils sont scolarisés, ou alors on le fait pour des décrocheurs scolaires dans d'autres établissements ou des associations aussi de réinsertion et autres. Donc sur ces jeunes-là, des fois ça peut être 2 heures. Des fois, ce qu'on peut proposer pour les 4e, comme disait Jean-Luc, c'est des fois un peu long. On peut faire des témoignages d'1 heure, 1 heure, c'est-à-dire qu'ils voient un intervenant pendant 1 heure et l'heure d'après ils voient un autre intervenant. Ça, c'est des choses en fait qu'on discute avec les enseignants pour trouver une formule qui colle mieux à leur classe et qui puisse répondre quand même à cet échange-là, à cette rencontre-là, à ces objectifs.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette discussion autour de l'association 100 000 entrepreneurs et donc cette action de favoriser des rencontres entre des entrepreneurs confirmés et ou des porteurs de projets même. Donc ça veut dire pas forcément des entrepreneurs confirmés, il y a aussi ceux qui portent des projets en cours. Et puis la jeunesse, les jeunes de 13 à 25 ans, vous écoutez donc La Voix de l'Emploi sur News FM. Petite pause et puis on se retrouve juste après. Restez avec nous.
Time spent can't afford me unless I mean it more. No, who's not around to share another go around with me? Long ago is where they go. No, no, tell me what to do when the ones you love have gone missing. My God, I lost you at the corner. Oh God, I lost you in the moment. Why now and not a little later? Tell me how the world seems to get along without you. Moving on without you, yeah. Yeah, yeah. How can my world be much better off without you? You're on the inside looking now. When I took a life and they can't get back home. Mom stays crying for the both of them. Holding on to pictures cause she can't hold. Either you, either you. My God, you took him at the corner. And maybe the world will be much better off without you. Yeah, yeah, yeah. Both of these lies would have carried on without you. Yeah, yeah, yeah. Maybe the world will be much better off without you. What about the other life? Would it be a better life? You said you was hoping for a better life than this. I don't wanna wish a about the other life. Would there be a better life? You said you was hoping for a better life than this. I don't wanna wish a life away. By God, I lost you at the corner. On God, you lost it in the moment. Why now and not a little later? Tell me how the world seems to get along without you.
Voix de l'emploi, c'est sur News FM.
Voilà, vous écoutez La Voix de l'emploi sur News FM. Nous parlons aujourd'hui de l'action 100 000 entrepreneurs, l'association, et donc les actions qui sont menées par cette grande association nationale. Auprès des 13-25 ans, nos invités sont Marilyn de Crémou de l'association 100 000 entrepreneurs, Pascale Niclot, enseignante au lycée Louise Michel de Grenoble, et Jean-Luc Aprieux, entrepreneur. Alors, ben justement, alors Jean-Luc, vous m'aiguillez à l'instant sur un aspect des choses. Alors, avant d'aborder la suite du programme, vous vouliez apporter des précisions sur les matières, c'est-à-dire donc en fait un peu plus de contenu d'intervention de votre part.
Alors, par exemple, pour leur expliquer les matières enseignées. Je leur explique que quand j'étais en activité intense dans les entreprises, je recevais des CV et qu'un CV, il y en a des bons, il y en a des moyens, il y en a des mauvais. Mais le point central, c'est que s'il y avait une seule faute d'orthographe sur un CV, le CV passait à la poubelle, quel que soit le niveau de la personne qui se présentait dans l'entreprise. Parce que pour moi, j'estimais que cette personne allait devenir un ambassadeur de ma société à l'avenir et que s'il faisait des mails ou des courriers bourrés de fautes, ça allait dévaloriser mon entreprise. Donc, pourquoi apprendre le français ? Bah, tout simplement pour respecter l'orthographe, la grammaire et ainsi de suite et leur faire comprendre que pourquoi on apprend l'histoire, pourquoi on apprend le français, pourquoi on apprend la géographie, c'est toutes des choses. On ne sait pas pourquoi on y apprend en fait quand on est à l'école. On le sait qu'après, c'est dommage.
Voilà, donc l'importance de comprendre pourquoi on fait les choses
pour
être plus disposé à les apprendre. Cela dit, est-ce que vous êtes représentatif du monde des entrepreneurs qui lisent les CV ou est-ce que il y a quand même d'autres chefs d'entreprise qui accordent moins d'importance à ces choses-là ?
Chacun met son importance qu'il veut bien mettre en place et moi c'était une chose très importante et aujourd'hui dans ma vie quotidienne, je fais toujours attention à l'orthographe, parce que je trouve que c'est important de respecter les gens qui lisent en face.
En tout cas, d'où l'intérêt de pouvoir rencontrer des entrepreneurs pour mieux comprendre comment ça se passe de leur côté, à la fois pour parler de la culture d'entreprise, pour parler du goût d'entreprendre, mais aussi les questions qui relèvent de l'emploi, l'accès à l'emploi, les entretiens d'embauche, faire bonne impression. On dit souvent que la première impression est la bonne. Donc toutes ces choses-là qui sont importantes pour vous, Jean-Luc. Et puis après, je ne sais pas si... on revient un peu sur le schéma, les choses à aborder pendant les entretiens. Est-ce que tous les entrepreneurs reviennent aussi un peu sur ces choses-là ? On parle à la fois de « vous pouvez le faire, vous pouvez monter des activités », mais aussi... simplement, lorsque vous allez avoir un entretien, lorsque vous allez être dans votre entreprise, les règles, ce genre de choses, c'est à chaque fois les entretiens, les rencontres entrepreneurs-élèves, ça brosse un éventail très large.
Alors, à la fois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les objectifs pédagogiques de entreprendre au sens large, découvrir le monde pro, et puis faire le lien entre matière enseignée et monde professionnel. À la fois chaque intervention, et c'est ça l'intérêt, elle est unique parce qu'en face de nous, on a des jeunes différents à chaque fois. Et l'objectif, c'est d'apporter ce témoignage-là de parcours de vie, d'aborder un certain nombre de points qui ont été discutés, validés avec l'enseignant ou l'enseignante avant, mais aussi d'être à l'écoute des jeunes et de leurs questions et de leurs projets. Et c'est ce qui fait que, à chaque fois, c'est différent parce qu'on peut aborder, selon les problématiques des jeunes qu'on a en face, on est aussi à leur disposition pour venir aborder, la problématique du stage, la problématique de l'emploi, de l'intérêt de l'école, etc., etc. Et c'est ça, je dirais, la richesse. Et c'est pour ça que les intervenants interviennent régulièrement. C'est parce qu'à chaque fois, c'est différent.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un aspect, comme vous venez de le dire, sur la matière. Les matières qu'on enseigne, elles prennent un sens quand de l'extérieur, on vient montrer ce qu'on apprend à l'école, on le retrouve dans le monde du travail. Je vais prendre un exemple en droit ou en économie. Le statut juridique de l'entreprise qui est abordé par les intervenants quand ils présentent leur société, on a des statuts très différents. L'économie solidaire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une entreprise coopérative ? Qu'est-ce que c'est une SARL ? Est-ce que quand on rachète une entreprise en tant que salarié pour pouvoir continuer la pérennité de l'entreprise, comment on s'y prend ? Qu'est-ce que ça devient ? Pourquoi ? Enfin, toutes ces questions que nous on aborde en économie et en droit. Et donc ça prend tout un sens quand quelqu'un de l'extérieur vient et dit voilà comment ça s'est passé, voilà comment est ma société, comment est mon entreprise et comment je fonctionne.
Et qui aborde donc l'aspect pratique de toutes ces choses qu'on apprend, les théories qu'on apprend.
C'est ça.
En établissement scolaire. Alors j'aimerais revenir sur ce côté jeunesse, puisque je citais en début d'émission les chiffres publié par le journal Le Figaro, et j'aimerais revenir sur ce point. Un entrepreneur sur trois âgé de moins de 30 ans en 2019, alors c'est un peu plus d'un entrepreneur, puisque le chiffre exact, le pourcentage exact, c'est 38%. Est-ce que c'est un bon ratio, un entrepreneur sur trois qui a moins de 30 ans ? Est-ce que ça veut dire que les jeunes... Alors, si j'ai bien compris, ça a progressé régulièrement ces 10 dernières années, maintenant ça tend à stagner un petit peu, ce 1 sur 3. Est-ce que c'est un bon ratio? Ça signifie que les jeunes se lancent un petit peu dans cette aventure de la création d'activités, ou est-ce que ça reste un chiffre médiocre?
Alors moi je vois une belle évolution hein, depuis qu'on a créé l'association là-dessus hein, sur ce chiffre-là. Donc clairement il y a une acculturation de plus en plus tôt sur ce monde de l'entrepreneuriat. Et même si bien sûr on peut faire mieux, on peut faire plus, etc. Aujourd'hui, ce qui est visible, c'est que ça se fait, ça se monte, et ça c'est important. Parce qu'aussi, moi je le vois par rapport aux partenaires avec lesquels on travaille, on a des partenaires, je peux citer par exemple Pépite, qui va aider les étudiants à monter leur entreprise en étant eux-mêmes étudiants. Il y a un certain nombre d'accompagnements qui existent partout et qui permet justement que le déclic et la graine que nous on va venir semer, elle va germer, elle va se réaliser au bout avec cette création d'entreprise. Donc il y a une belle évolution et je pense qu'on en est qu'au début.
Jean-Luc, tout au long de vos années entrepreneurs, vous avez, sur ces 10 dernières années, vous avez croisé des jeunes créateurs d'entreprises. Comment vous les avez sentis?
Je fais plus que les croiser, puisque je suis aussi à l'association Réseau Entreprendre Rhône, en accompagnant des créations d'entreprises ou des reprises d'entreprises. Donc il y a des nouveaux créateurs, j'en vois tous les jours, je les accompagne pour justement qu'ils puissent se développer. La crise du Covid a éveillé les consciences chez beaucoup de jeunes, notamment dans les startups, où des gens qui n'osaient pas et qui d'un seul coup se sont dit je vais oser. Donc il y a beaucoup de créations d'entreprises aujourd'hui qui se font suite à la crise sanitaire de 2020. Et on verra dans quelques années si c'est des créations qui vont être sur la durée ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises à 5 ans qui ne sont plus en vie. Donc l'intérêt du réseau Entreprendre notamment, c'est aussi d'aider ces entrepreneurs à pouvoir se développer avec justement un parrainage de chef d'entreprise confirmé. Ça fait partie aussi des casquettes que j'ai aujourd'hui pour occuper mon temps.
Et donc ça permet de rappeler encore une fois hein, qu'il y a beaucoup de structures différentes qui accompagnent, qui épaulent, ou tout simplement qui conseillent.
Et le tout bénévolement, c'est ça qui est très intéressant.
Absolument.
Parce qu'il faut savoir recevoir pour savoir donner aussi.
Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur cette question-là. Les interventions d'entrepreneurs, donc tout ça, c'est bénévole aussi, ou les établissements doivent donner une petite participation ou quoi?
Non, pas du tout. Merci d'aborder le sujet. En effet, ce sont des témoignages qui sont gratuits pour les établissements. C'est à la demande donc des enseignants qu'on intervient dans les classes. Donc c'est totalement gratuit. Je voulais juste revenir sur l'outil peut-être, l'outil digital qui nous permet de réaliser ces beaux chiffres aussi efficacement parce que on a cette plateforme qui nous permet d'avoir d'un côté les enseignants qui font des demandes, donc ils s'inscrivent, ils vont dire moi pour ma classe de 24 jeunes de première STMG, j'aimerais bien qu'il y ait un intervenant qui vienne tel jour, avec un petit commentaire pour parler de ça, etc. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs bénévoles qui vont venir se positionner en disant moi ça m'intéresse, je suis disponible, j'y vais. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu ce fameux mail de mise en relation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc d'un côté comme d'un autre, hein, tout est bénévole et c'est pour ça qu'on le propose gratuitement pour aussi changer d'échelle, entre guillemets, essayer de toucher tous les jeunes partout en France.
Et quelquefois même, ça nous arrive de faire beaucoup de routes, puisque moi j'interviens aussi en Ardèche, dans la Drôme, dans la Loire, parce que il n'y a pas non plus pléthore de chefs d'entreprise un petit peu sur tout le territoire. Et quelquefois, il y a des classes entre guillemets oubliées. L'autre jour, je suis allé à Privas, 1h45 de route aller, 1h45 de route retour, pour passer 2 heures avec des élèves. Il faut avoir envie. Et ça fait partie aussi des fondamentaux de l'association.
Donc il y a vraiment un engagement hein, de la part des entrepreneurs témoins. On évoquait également donc la question de l'entrepreneuriat au féminin en première partie d'émission au début. On va revenir un petit peu sur cette question-là puisque j'ai un autre chiffre. Alors hein, pour ce que valent les chiffres, mais en tout cas, on nous disait également que sur l'année 2019, on estimait à 40% le nombre de créatrices de, d'activités ou d'entreprises. Donc cette question, on l'a rappelé, c'est un des axes de travail de 100 000 entrepreneurs, de rappeler aux jeunes filles que c'est possible. Malgré tout, 40%, ben, là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un chiffre qui est correct? On est presque à 50%, mais pas tout à fait.
Ça monte.
Ouais, donc il y a toujours quand même plus de garçons, d'hommes qui créent l'entreprise. Ça veut dire quoi? Que c'est plus facile pour eux ou qu'ils ont moins d'appréhension? Est-ce qu'il y a des freins à la création d'entreprise quand on est
dans les interventions? On s'aperçoit que les garçons sont un petit peu plus téméraires, ceux qui balancent les premières vannes et ainsi de suite. Les filles sont un petit peu plus introverties et je pense que ça se ressent ensuite, effectivement, dans la création d'entreprise où une fille ose moins qu'un homme. Et au niveau national, les statistiques sont peut-être là aussi pour le prouver que elle manque d'une seule chose, c'est d'une confirmation, d'en discuter, parce que dès qu'on commence à parler avec elles, elles sont à l'égal des hommes sans aucun problème, et comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup plus de finesse et de tact. Donc il faut les encourager. Aujourd'hui, il faut simplement les encourager, leur donner la parole. C'est comme quand on dit il faut 50% de féminité au niveau des conseils d'administration. C'est pas pour combler une case, c'est pour avoir des vraies compétences au sein des conseils d'administration qu'on demande de féminiser. C'est pas pour remplir une statistique au niveau français.
Est-ce que le manque de confiance des jeunes femmes ou des femmes, hein, puisque après tout c'est pas forcément que les jeunes qui peuvent se lancer, il peut y avoir des reconversions, des changements d'orientation professionnelle. Est-ce que ce manque de confiance, ça serait le seul frein ou on nous dit souvent, on parle beaucoup hein, du harcèlement, des relations hommes-femmes dans le milieu du travail. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui font que les femmes n'osent pas?
En tout cas, moi, pour avoir constaté dans mes classes, je pense qu'il y a quand même aussi encore une culture, ou en tout cas une société qui est sur une structure familiale encore assez classique. Et donc, on a beaucoup de filles qui n'osent pas parce que elles sont dans un schéma classique de famille, et donc il y a peut-être d'autres priorités à un moment donné qui vont arriver dans leur vie, et donc elles n'osent pas parce qu'elles ne vont pas tenter pour finalement après ne plus pouvoir. Donc et pour autant, quand on est en cours, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus armées que les garçons. Alors c'est pareil, peut-être que les garçons vont pas beaucoup m'aimer quand je vais dire ça, mais elles sont souvent plus travailleuses, plus sérieuses, plus structurées, et donc bien sûr il y a des exceptions à tout, hein, mais quoi qu'il en soit, quand on regarde un groupe d'élèves, les filles sont tout aussi bien armées que les garçons, et donc elles pourraient très bien réussir. Et je pense que c'est encore un problème de culture, d'où l'importance d'avoir des interventions justement de femmes pour montrer qu'on peut réussir dans le monde du travail, même si on pense qu'il est encore très masculin.
Tout à l'heure, Jean-Luc, vous rappeliez que monter une entreprise, d'accord, mais il faut aussi que ça dure, et qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'activités économiques créés qui se cassent la figure dans les cinq premières années. Est-ce que les activités, les entreprises créées par des femmes, justement parce qu'elles sont plus réfléchies que les garçons, est-ce qu'elles durent mieux?
Oui, les stades vont dans ce sens-là, exactement, ouais. Pour dire que, alors je l'ai plus en tête, hein, mais au bout de 3 ans, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont pérennes, qui existent encore, que des entreprises montées par des hommes. Donc je pense que c'est avant tout, en effet, une question de culture et que ces rôles modèles-là, les témoins qui vont venir en classe, par leur exemple, en fait, vont lever ces freins qui restent beaucoup à ce niveau-là. Après, il y a d'autres freins qui sont liés aussi à oser aller voir son banquier et demander beaucoup plus pour le même projet que le font aujourd'hui les femmes. Donc il y a des freins à plein d'échelles, plein de niveaux. Aujourd'hui, je pense que nous on touche le premier, qui est l'autocensure, en se disant moi j'en suis pas capable, ou même je ne m'imagine même pas dans cette position-là. Donc là, en face de vous, vous avez au contraire des réussites. Alors des réussites, alors, hommes et femmes d'ailleurs, quand je dis rôle modèle, c'est des réussites. Dans la vraie vie, c'est-à-dire parler des joies, des difficultés, c'est pas la vie est rose, hein. C'est de montrer à tous qu'il y a bien sûr des difficultés, mais de montrer que de rebondir après ces difficultés-là, c'est ça qui est épanouissant et c'est ça qui fait que quand on est acteur de sa vie, elle a une autre saveur, clairement. Et ces rôles féminins, ils sont là pour montrer que, en étant une femme, encore plus, et pourquoi pas, élever tous ces freins qui sont simplement dans la tête des jeunes.
Et qu'on soit homme ou femme, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de prendre conscience que les élèves qu'on voit, ils ont entre 14, 16, 20 ans, 22 pour les plus forts. Ils vont arrêter de travailler vers 65 ans. Quand on fait 60 ans moins 20 ans, ça fait 40 ans. Il faut qu'ils se disent surtout qu'ils vont encore travailler pendant 40 ans. Je dis bien encore. Pourquoi encore ? Le mot encore met une contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux aller au travail avec le sourire qu'avec qu'en faisant la gueule ? Alors, je leur dis que moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai fait mon premier CDI, au bout d'un mois, je prenais le car tous les matins, je mettais 45 minutes et je faisais la gueule. Parce que me lever à 4 heures pour aller au boulot, c'était pas rigolo. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'allais le faire pendant 40 ans. Donc, autant le faire avec le sourire et regarder le bon côté des choses plutôt que de regarder que le côté sombre. Et ça aussi, ça se transmet. Parce qu'il faut prendre conscience qu'ils vont passer 40 ans au boulot.
Le revers de la médaille aussi, quand on est son propre patron, c'est qu'on a tout le stress, tout le poids de son entreprise.
Ça, c'est monumental.
Ça, il faut le tenir pendant 40 ans aussi.
C'est monumental. Et ce que je leur fais prendre conscience aussi, c'est que le baromètre d'un entrepreneur, c'est pas le professionnel, c'est le privé. Si un entrepreneur a une vie privée saine, sereine, ça ira toujours bien au niveau de l'entreprise. Par contre, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a une vie privée tourmentée, ça va tout le temps déteindre sur l'entreprise derrière. Et j'essaie de leur expliquer que quand on part du boulot, on met sa veste des emmerdes de la maison. Quand on arrive à la maison, on pose au porte-manteau les emmerdes du boulot, qu'on reprend le lendemain matin. Et quand on arrive au boulot avec la veste des emmerdes perso, on les met au porte-manteau et on les reprend le soir pour rentrer à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que le privé déteigne sur le professionnel et vice-versa. Et ça, c'est des petites choses qu'ils vont entendre en intervention, qu'ils ne vont pas comprendre sur le moment, mais je pense qu'un jour, ça remontera. Et c'est ça aussi l'éducation des enfants.
On arrive bientôt au terme de notre émission. J'avais envie quand même de vous poser la dernière question, on va dire. Enfin, vous aurez le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose ou aborder rapidement une chose dont on n'a pas parlé dans l'émission. C'est sur... Finalement, monter une activité en France pendant longtemps, on entendait dire que c'était compliqué en France, que c'est pas un des pays qui facilite le plus l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a évolué, Jean-Luc, Pascal, Marilyn, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ou c'est toujours mieux ailleurs? Est-ce qu'il faut aller monter une entreprise à l'étranger?
Bon, je pense que Jean-Luc pourra en reparler. Moi, du retour que j'ai par rapport à toutes les interventions que j'ai pu suivre et tous les échos d'entrepreneurs qu'on a eu autour de la table, il y a une grosse évolution. Aujourd'hui, il y a eu des efforts faits pour faciliter la création d'entreprises, clairement. Après, il y a toujours des questionnements, toujours... des difficultés à droite à gauche, mais j'allais dire le virage a été fait et on est sur la bonne voie.
Faut pas oublier aujourd'hui que on le voit avec la crise du Covid, en France les entrepreneurs sont supportés par l'État d'une manière monumentale et que si l'État n'était pas là pendant cette période, ça serait une véritable hécatombe au niveau des entreprises. Donc on peut dire chez nous en France, les entreprises sont très très bien soutenues par le gouvernement et l'État. Très important.
Et toute la lourdeur administrative dont on entendait parler...
Dans ces cas-là, on s'en fout de la lourdeur.
non, mais je veux dire, en dehors de cette situation exceptionnelle de la crise sanitaire...
Il faut se mettre dedans. Il y a peut-être de la lourdeur, effectivement, mais de toute façon, l'important, c'est de combattre tout ça et puis de faire ce qu'on a envie de faire. Quand on est chef d'entreprise, c'est justement pour avoir cette autonomie qu'on veut être chef d'entreprise.
Pascal, là, du point de vue de...
Alors moi, je mettrais un petit bémol par rapport à mes collègues pour dire que oui, il y a encore quand même tout, aujourd'hui un peu de lourdeur administrative parce que pour l'avoir connu dans ma vie personnelle et non pas professionnelle, la création d'entreprise, ça reste quand même quelque chose de compliqué où il faut se poser les bonnes questions au bon moment et ça peut prendre du temps et parfois il peut y avoir des erreurs. Et donc du côté administration, on va dire que c'est pas toujours facile. quoi qu'il en soit, l'augmentation de ces jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, ça montre toutefois qu'il y a une évolution positive et que toutes les actions qui sont mises en place, ça marche. Puisque moi, c'est pareil, je fais partie d'une association, enfin, en tout cas, je participe à l'association Entreprendre pour Apprendre, qui met en avant la création d'entreprises auprès de jeunes lycéens, BTS ou collégiens. Et c'est vrai qu'ils créent des entreprises et on voit le plaisir qu'ils ont à créer et qui donne encore envie souvent à ces jeunes-là en disant, moi, après le lycée, après le bac, je deviendrai entrepreneur. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution positive dans ce sens-là. Il faut donc continuer à mettre des actions en place nombreuses, comme le fait 100 000 entrepreneurs. Mais moi, je souhaiterais qu'à l'avenir, la France devienne un pays un petit peu moins administratif, un petit peu moins avec des lourdeurs administratives. Je pense que c'est quand même un reproche qu'on peut faire encore aujourd'hui. Ouais.
On peut quand même rappeler qu'avec le numérique aujourd'hui, et notamment l'Internet, il y a aussi beaucoup de simplifications. Voilà, donc c'est aussi pour apporter un petit message de positif.
Oui, tout à fait, il y a eu quand même une belle évolution. Et puis surtout, l'ont rappelé tout le monde autour de la table, hein, l'idée c'est aussi, quand nous on sème la graine, c'est que derrière il y a aussi d'autres déclics qui vont avoir lieu grâce à un écosystème qui va aider à faire en sorte que cette lourdeur, ces questions à se poser au bon moment, elle soit résolue plus facilement parce qu'on est accompagné. Et vraiment, j'invite tous les entrepreneurs dans l'âme qui souhaitent créer leur entreprise, porter des projets, allez voir ce qui se passe autour de chez vous. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider à réaliser vos projets.
Voilà, l'important est de ne pas hésiter à aller frapper à des portes parce que effectivement, avec les conseils aussi, hein, il suffit d'aller voir n'importe quel conseiller à Pôle emploi, dans les missions locales, etc. Il y a tout un tas de possibilités d'accompagnement.
Il faut oser, comme on dit.
Exactement. C'est la conclusion.
Et les points positifs qu'on retire, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on va visiter les entreprises, les écoles, c'est, moi, je donne tout le temps mon téléphone et mon mail à tous les élèves. Et quelques années plus tard, avoir encore des contacts avec des gens qu'on a vus 3 ans, 4 ans avant, qui vous appellent pour avoir un conseil. Ça, c'est super.
Bah d'ailleurs, est-ce que vous avez gardé des contacts avec d'anciens élèves qui ont monté leur projet ?
Bien sûr.
Ouais.
Oui, nous également. Mais c'est vrai que là, je peux faire un appel directement. Si vous en avez bénéficié, n'hésitez pas à venir vers nous pour justement qu'on puisse travailler. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec toute cette communauté de jeunes pour faire en sorte que notre réseau puisse les aider, qu'on puisse les aiguiller vers d'autres structures, etc. Donc, heureusement, oui, on a des déclics qui se font très vite, des déclics un peu plus tard, mais d'avoir ces retours-là, on sait que ça valait le coup et qu'on a vraiment gagné.
Merci à tous les trois d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui pour aborder ce sujet. Donc, nous étions en compagnie de Marine de Crémou, animatrice du réseau Auvergne-Rhône-Alpes pour l'association 100 000 entrepreneurs, Pascale Niclot, enseignante au lycée Louise Michel de Grenoble et Jean-Luc Aprieux, entrepreneur. Merci encore à vous trois. Je vous donne rendez-vous d'ici la fin du mois. On va faire 2 voies de l'emploi ce mois-ci, normalement, si tout se programme bien. Rendez-vous à la fin du mois. Très bonne journée à tous sur l'antenne de News FM. À bientôt. Ciao.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du Cégette, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.